Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Aujourd'hui, nous célébrons la solennité du Christ, roi de l'univers. À la fois, c'est une année liturgique qui s'achève, l'année A, et à la fois, comme laisse percevoir une nouvelle année liturgique qui va commencer avec le premier dimanche de l'Avent, le dimanche prochain. C'est peut-être pour nous l'occasion de faire un petit bilan de l'année écoulée, de regarder ce qu'il y a eu de beau, de bon, de vrai et de sincère dans notre vie, en relation avec le Christ qui, dans son humanité, récapitule toute notre humanité et la présente au Père. C'est aussi l'occasion pour nous de demander les grâces nécessaires pour commencer cette nouvelle année liturgique le dimanche prochain, armé des grâces nécessaires pour demeurer dans l'union avec Dieu en Jésus-Christ. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. » Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle.
Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Lorsque Pie XI institua la fête du Christ roi en 1925, le monde continuait à subir les conséquences néfastes de la Grande Guerre. Le monde était dans l'instabilité politique, en Europe particulièrement, mais dans la récession économique dans tous les continents. Et le pape voulait rappeler solennellement la royauté du Christ sur l'humanité, sur tout l'univers, voulant ainsi lancer un cri d'espérance pour que les hommes continuent à espérer malgré les situations difficiles dans lesquelles ils se trouvaient. Et c'est là, peut-être, que dans la situation difficile où nous trouvons, l'initiative pontificale trouve un parfait écho. Le Christ, notre roi. Qu'est-ce que cela signifie ? Des rois, nous en avons une certaine connaissance, pas toujours heureuse, hélas. Trop souvent, des rois ont abusé de leur pouvoir, détriment de leur peuple, comme les rois d'Israël, d'ailleurs. Alors il s'agit de bien prendre conscience du type de royauté dont il s'agit. Qui est donc ce roi? Comment est-il roi? De quelle manière exerce-t-il sa royauté? Eh bien, le dossier judiciaire transmis par les Juifs à Pilate comportait cette accusation, cet homme se fait roi, ce qui est un blasphème contre Dieu. Ce langage-là, Pilate ne pouvait pas le comprendre. Il avait seulement son attention retenue par le titre de roi. Alors que Rome, l'Empire, imposait son pouvoir sur la Palestine, sur le peuple d'Israël, que quelqu'un se prétende roi, ou bien c'est un fou, ou bien c'est un homme dangereux qui veut combattre le pouvoir de Rome. Voilà pourquoi Pilate interroge Jésus sur sa royauté. Mais nous assistons à un langage mystérieux de la part de Jésus, un langage que Pilate ne pouvait pas comprendre. Mon royaume n'est pas de ce monde. En effet, s'il était roi comme en ce monde, il aurait une cour qui l'entoure. Il aurait une armée pour le défendre, comme il le fait remarquer à Pilate. Ce langage-là, Pilate le comprend. Mais comment comprendre que ce règne est établi pour faire éclater la vérité? Qu'est-ce que la vérité pour un relativiste sceptique comme l'était Pilate? Un royaume que nous reconnaissons comme établissant la justice et la paix entre les hommes. De paix, il n'en existait pas vraiment à l'époque. Certes, il y avait une paix, celle qui était imposée par l'Empire aux nations conquises et qui était fondée sur la force des armes. Mais telle n'est pas la royauté de Jésus, qui voulait répondre à la violence des armes par la douceur. Et c'est là que Pilate ne pouvait plus le suivre et qu'il voulait abandonner la partie. Il ne comprenait plus. Mais nous, à la lumière de l'Esprit, essayons de comprendre. Certes, c'est un roi bien étrange. Sa couronne est d'épines. Son sceptre est un roseau avec lequel on lui frappe la tête par dérision. Son trône est la croix, où il triomphe du mal et de la mort en sauvant ses frères. Voilà la royauté du Christ. C'est une royauté tout entière spirituelle, divine. Et voilà pourquoi elle est décalée par rapport à notre raison humaine. Oui, nous sommes devant le mystère d'une royauté divine, qui est fonction de la création, car Dieu a créé l'homme maître de la création pour la mettre en valeur. Il lui a conféré ce pouvoir. Et Jésus continue à respecter cette volonté initiale de Dieu dans la création. Alors, pour nous faire comprendre le type de royauté qui est la sienne, il prend un symbole qui est bien connu dans la Bible, la figure du pasteur. Les prophètes, et nous en avons entendu un ce matin, les prophètes avaient utilisé l'image du pasteur pour stigmatiser les mauvais rois d'Israël qui avaient abusé de leur pouvoir, qui avaient dirigé le peuple à leur propre avantage. et Dieu les avait désapprouvés. Les prophètes l'avaient annoncé, Dieu va prendre lui-même la direction de son peuple pour le conduire vers de beaux pâturages, vers les sources de la vie en Dieu. Jésus reprend cette image à son compte, mais il la situe dans le cadre du jugement final dont il a reçu le pouvoir de son Père. Le Père a remis le jugement à son Fils pour qu'il l'exécute au dernier jour. Et c'est dans la perspective de ce jugement final que le Seigneur nous situe ce matin par cette parabole remarquable. Oui, certes, nous sommes en quelque sorte les mandataires du Christ. Car le Christ continue à avoir faim, à avoir soif, à être nu et démuni de tout, à être malade et en prison aujourd'hui. Mais nous devons le reconnaître. Ah, ce n'est pas simple. Mais nous avons là une parole de Jésus qu'il a plusieurs fois répétée. Il s'identifie au plus petit. Chaque fois que nous rencontrons un homme éprouvé, c'est le Christ lui-même qui nous interpelle. Et c'est là qu'au dernier jour, il posera la question : qu'as-tu donc fait de moi ? Oui, la question n'est pas agréable à entendre, mais nous devons bien l'intégrer et nous rendre compte que c'est d'une certaine manière aujourd'hui que nous déterminons notre destinée finale. Dieu nous appelle, Dieu nous invite à jouir du plein bonheur avec lui, mais Dieu ne nous contraint pas. Le pasteur, certes, va à la recherche de la brebis égarée. Quand il l'a retrouvée, il ne lui adresse pas de reproche, il lui montre sa tendresse, mais il ne la contraint pas. Si la brebis s'obstine dans son égarement, Dieu respecte la liberté de sa créature. Dieu ne peut pas contredire son dessein premier. Il a créé l'homme à son image, donc libre de se sauver à la suite du Christ ou de se perdre loin de lui. Et voilà que Jésus nous transporte vers ce moment décisif, où il rend le jugement sur les hommes, où il discerne les hommes les uns des autres, ceux qui auront vécu selon sa loi d'amour, ceux-là il les mettra à sa droite. Les autres qui ont ignoré, négligé, méprisé sa loi d'amour, il les laissera librement aller vers leur destin. Oui, nous devions bien le comprendre, nous déterminons nous-mêmes notre destinée finale. Dieu nous invite au bonheur, mais il ne nous contraint pas de l'accueillir. Je pense que nous désirons fermement être parmi ceux que le Seigneur prend à sa droite. Alors aujourd'hui, vivons en profondeur cette loi d'amour. Le Seigneur fait de nous les témoins de son amour pour tous les hommes. Prenons cela au concret en chacune de nos journées. Nous avons l'occasion de le vivre, de le manifester. C'est ainsi que le jour venu, et comme il nous l'a promis, le Seigneur, roi, notre roi, nous prendra pour vivre dans le bonheur le plus absolu en sa présence.